Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Laisse Thierry Garcin regagner son fauteuil parce que ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, c'est qu'il est hyper actif en studio. Il se lève, il fait plusieurs choses à la fois.
J'accueille mon invité.
Oui, et vous avez raison, il est en studio avec nous. Thierry Garcin, aujourd'hui, comme hier, des enjeux internationaux qui traversent les frontières avec cette question aujourd'hui. Faut-il toujours parler des intégrations économiques régionales?
Et j'ai même mis, ça se voit d'ailleurs bien à l'antenne, j'ai mis économique entre guillemets. Alors Jacques Tenier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignant... chercheur à l'Université de Rennes. Vous êtes grand spécialiste des intégrations économiques régionales. Vous avez publié là-dessus. Alors, ces intégrations économiques sont de divers types, plus ou moins ambitieuses. Alors, ça va du libre-échange à l'union douanière, au marché commun, etc. Plus ou moins cohérentes, plus ou moins solidaires. Et puis, après le Brexit qui désunit l'Union européenne, si l'on ose dire, quels enseignements en dehors du vieux continent? Alors quand même, en première approche, l'expression intégration économique régionale est bien pratique. Ça veut dire que les pays considérés nouent des relations économiques privilégiées à l'échelle régionale. Et à ce moment-là, il faut tout de suite dire que la notion de région, qui peut varier notablement, est soumise à discussion. Elle peut varier aussi bien en Europe qu'en Amérique latine, qu'en Asie-Pacifique. Et puis on va voir donc ce que font les autres. Alors que font les autres, notamment lorsqu'il y a des unions?
Ils sont confrontés effectivement à des situations, sinon comparables à celles de l'Union européenne, du moins qui suscitent des réflexions analogues. Dans un certain nombre de cas, vous avez des pays qui ont fait semblant de s'unir, si j'ose dire, mais qui sont en réalité à ce point désunis sur le fond que l'organisation régionale est mise en sommeil. Je pense à l'Union du Maghreb arabe, qui a été fondée au début des années 1990, mais les relations entre l'Algérie et le Maroc sont telles qu'à vrai dire, cette organisation...
Elle a été plombée par la guerre civile algérienne.
Oui, exactement. La frontière entre les deux principaux États a été fermée. Vous avez une autre association improbable qui est l'Association pour la coopération régionale en Asie du Sud, donc qui existe depuis 1985, mais qui regroupe des États dont les relations sont plus que conflictuelles, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh notamment. Et entre 1998 et 2002, après la guerre de Kargil dans l'Himalaya, l'organisation avait été mise en sommeil. Et quelque chose d'analogue se présente aujourd'hui après l'attaque contre des soldats indiens dans le Cachemire, puisque l'association doit tenir son sommet à Islamabad, et l'Inde, le Bangladesh et l'Afghanistan ont annoncé qu'elle boycotterait ce sommet. Donc on peut trouver des cas donc dans lesquels les organisations régionales existent sur le papier, fonctionne plus ou moins bien, et en cas de difficultés majeures, sont mises en sommeil ou décident de ne plus tenir le sommet pendant un certain nombre d'années.
Est-ce qu'il y a des cas, Jacques Tenier, de retrait?
Oui, il y a des cas de retrait, et il me semble que là, nous pouvons aller regarder du côté de l'Amérique du Sud, avec la communauté andine. Donc la communauté andine, le groupe andin d'abord à la fin des années 60, puis la communauté andine dans les années 90. Donc c'est constitué autour de l'idée d'une protection économique régionale, donc avec des droits de douane communs pour permettre le développement des industries régionales. Donc elle a été ralliée en 1973 par le Venezuela. En 1976, le général Pinochet a fait sortir le Chili, et c'était très symptomatique parce que finalement, la politique économique qu'il allait mettre en place avec les Chicago Boys était justement à l'opposé de cette politique de protection régionale, c'était celle d'une ouverture au commerce mondial tous azimuts.
La relation aux États-Unis qui était clivante d'un côté et de l'autre.
Oui, c'est juste. Et puis, d'un autre côté, Hugo Chavez, en 2006, a fait sortir le Venezuela de la communauté andine. Et là, au motif que Pérou et Colombie venaient de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, alors même que la communauté andine est censée être une union douanière. Donc cet accord, il aurait dû être celui du groupe régional et pas celui de chacun des pays. Et donc, pour une raison opposée évidemment à celle du Chili en 1976, le Venezuela l'a quitté en 2006. mais sans non plus être très crédible, parce qu'à vrai dire, lorsqu'il était membre de la communauté andine, il appliquait peu les décisions du groupe régional, et en tout cas pas celles du tribunal de justice andin lorsqu'il lui donnait tort.
Alors il y a une organisation aussi, évidemment, qui dépend de la Russie, qui a été créée au moment de la mort de l'Union soviétique, c'est évidemment la communauté des États indépendants. Dans l'absolu, ça devait être, peut-être moins évidemment les États baltes, l'ensemble des pays héritiers de l'URSS.
Oui, la communauté des États indépendants a été fondée en 1991. Elle a eu, me semble-t-il, le principal mérite de contribuer à gérer relativement pacifiquement la désintégration de l'Union soviétique par opposition à celle de la Yougoslavie. Mais les rapports de force au profit de la Russie, évidemment, sont tels que ses partenaires peuvent être conduits à quitter l'organisation. Et c'est bien ce qui s'est produit en 2008 avec la Géorgie, après la guerre en Ossétie. Et en 2014 avec l'Ukraine, après l'agression contre l'Est de l'Ukraine et la Crimée.
Alors vous citez aussi, d'ailleurs c'est intéressant dans vos travaux, le cas, c'est pas un cas tout à fait majeur, mais c'est un cas intéressant sur le plan géopolitique et politique, c'est le cas du Rwanda en Afrique.
Oui, c'est juste, le Rwanda, en tant qu'État francophone, faisait partie des organisations régionales francophones d'Afrique centrale, donc en l'espèce la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec notamment la République démocratique du Congo et le Burundi. On sait malheureusement quelles ont été les tragédies entre ces États depuis une vingtaine d'années. Mais pour marquer sa distance croissante, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de la France, le Rwanda de Paul Kagame effectivement est sorti de cette organisation et en revanche a rallié la communauté est-africaine, donc dans un espace anglophone, puisque la CEA a été fondée par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Donc,
je ne sais pas si je dis une bêtise, mais je me demande si Kagame n'a pas au Rwanda imposé l'anglais comme une langue officielle. Je n'en suis pas sûr.
Oui, oui. Enfin, en tout cas, il y a eu une revalorisation, de l'anglais au détriment du français, c'est exact.
Voilà. Alors, bon, il y a des États qui ne sont pas entrés alors qu'ils devaient l'être dans une organisation, notamment ce qui concerne évidemment le marché commun. Mais alors, comment prévenir les tensions, comment les gérer, précisément le côté, on va dire, un peu préventif ou curatif? Ça nous intéresse beaucoup dans la mesure où il y a le Brexit.
Oui, je suggérerais quelques pistes au vu donc de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe sur les autres continents. C'est d'abord le respect mutuel des partenaires. La situation est rapidement désastreuse lorsque un effet de domination se manifeste trop fortement. Et il me semble que de ce point de vue-là, par exemple, le président Lula, vis-à-vis du Paraguay au sein du Mercosur, avait correctement joué lorsqu'il avait accepté, par exemple, de revaloriser le prix de l'électricité que le Brésil paye pour la production du barrage d'Itaipu. Tout simplement pour que, effectivement, au sein du Mercosur, non seulement les grands États, Brésil et Argentine, trouvent leur place, mais que les petits États, Paraguay et Uruguay, ne se sentent pas trop écartés. Il faut de surcroît que l'intérêt commun soit manifeste, confirmé concrètement par des réalisations.
Ça sonne étrangement en ce moment à propos des questions européennes, intérêt commun.
Oui, c'est juste, par les temps qui courent, il a du mal à être défini. Et là, de ce point de vue-là, nous pouvons regarder du côté de l'Asie du Sud-Est, parce que nous avions eu, sinon une situation comparable à celle de l'Union européenne, du moins une situation de grande difficulté lors de la crise financière asiatique en 1997-1998. La Malaisie avait joué cavalier seul pendant quelques temps, et finalement, au risque de la désintégration de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, les États membres ont décidé de renforcer leur coopération, de développer des fonds structurels ou l'équivalent à destination du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Et donc, ils s'en sont sortis par le haut.
Alors, quand ça marche, quand on arrive à s'arranger, c'est parce que les organisations sont molles, en fait, souvent. Ce qui n'est pas le cas, normalement, dans son principe de l'Union européenne.
C'est juste que la souplesse ou la plasticité...
La flexibilité, disaient les Américains.
Exactement, de l'organisation est un atout. Et là encore, l'Asie du Sud-Est, avec sa géométrie variable, ASEAN plus 1 avec la Chine, ASEAN plus 3 avec le Japon et la Corée du Sud...
Pragmatisme.
Effectivement, offre une piste, disons, d'adaptation ou d'adaptabilité aux circonstances.
Merci beaucoup Jacques Tenier. Donc je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, franceculture.fr pour écouter l'émission. Émilie, est-ce que vous avez envie de savoir demain ?
Alors oui, alors moi je sais où on part demain, aux États-Unis. Après, je n'en sais pas plus.
Eh bien, écoutez, on va partir pour le Congrès américain et quelle sera la relation du futur président ou de la future présidente américaine et avec son Congrès. Notre invité sera Dick Howard, professeur émérite à l'université Stony Brook de New York.
Eh bien, à demain.
À demain.